Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, on commente l'actualité évidemment. L'actualité c'est la suspension de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, principe de précaution, décision politique, on va en reparler avec vous. Emmanuel Macron annonce des prochaines mesures, stop au supplice chinois, ça fait des semaines qu'on le dit, attention on va annoncer des choses, annoncez-les tout de suite et qu'on en finisse. Et puis la prime Macron, prime de com. Est-ce que c'est suffisant? Il a annoncé hier qu'une prime de 1000 euros comme celle des Gilets jaunes pourrait être accordée pour ceux qui étaient en première ligne pendant le Covid, mais à bien comprendre que ce n'est pas le gouvernement qui va donner cette prime, mais les entreprises. Aujourd'hui pour débattre, Benjamin Cauchy, bonjour. Vous êtes conseiller en communication politique. Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine, bonjour.
Bonjour Valérie.
Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, bonjour.
Bonjour.
Et Luca Jakubovic, bonjour, journaliste bonjour. Politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Merci d'être là, bienvenue à vous, c'est une première. On va commencer avec notre tour de table habituel. Matteo, on va commencer avec un coup de gueule ou un coup de cœur pour le pape?
Un coup de gueule pour le pape, parce que on a lu que selon l'Obs, il aurait exprimé préoccupation pour l'éventuelle victoire de Marine Le Pen au présidentiel de 2022. Et donc, j'ai vu aussi le tweet de Marine Le Pen qui lui a répondu.
Qu'est-ce qu'elle lui a répondu?
En fait, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas Marine Le Pen qui l'a dit, mais c'était un peu l'évangile de Matthieu. Mais bon, ça, c'est le côté culture de la matinée. Et elle lui a dit aussi que ça serait sympa si le pape s'occupait un petit peu
De
ses affaires. Voilà. Il faut dire que le pape a plusieurs casquettes. En tant que catholique, je dois me plier à ces indications en tant que magistère. Donc, comme quand l'Église donne une position officielle sur ce qui est une question de foi, je simplifie un petit peu. Mais en tant que chef d'État, parce qu'il est aussi un souverain absolu, le pape, donc dans la cité du Vatican, donc il prend des positions qui sont politiques et qu'on peut partager ou pas partager. Et moi, franchement, de voir un pape qui se mêle des questions politiques, mais surtout toujours dans un même sens, de la globalisation finalement. Enfin, ça m'amène à poser quelques questions et surtout je pense aussi au fait que il n'est pas préoccupé quand des forces politiques en France font les choses qui ne sont pas très très proches du catholicisme, par exemple sur l'avortement, sur ce truc-là, enfin bref.
Alors, il faut dire que le pape recevait plusieurs associatifs français. C'est pour ça qu'il a évoqué Marine Le Pen. C'était pas dans son homélie, particulière. Mais c'est vrai. Donc Marine Le Pen lui a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis convaincue que de nombreux croyants seraient ravis que le pape s'occupe de ce qui se passe dans les églises plutôt que dans les urnes, que chacun fasse ce pourquoi il est destiné. Voilà, c'est dit. Lucas, vous, c'est un coup de cœur?
C'est du en même temps, c'est à la fois un coup de cœur, c'est à la fois un coup de gueule, qui prend sa source en Allemagne. Ce week-end, il y a eu des élections régionales dans le Land du Bade-Württemberg, que les gens connaissent peut-être. Mmh. C'est le Land le plus riche d'Allemagne. C'est accessoirement un des bastions de l'industrie automobile. Et le président sortant a été triomphalement réélu. Mmh. Pour la petite histoire, il s'appelle Winfried Kretschmann. Mmh. Et c'est un écolo. Ah. C'est un écolo qui, depuis des années, gouverne en bonne intelligence avec la droite locale. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il faut savoir que les partis écolos, c'est aussi le cas en Autriche, ils sont ouverts d'esprit, ils sont pragmatiques, ils sont centristes. Ils sont souvent amenés à gouverner dans des coalitions avec les sociodémocrates. Occasionnellement, il gouverne avec la droite et ça se passe très bien. Ouais. Donc, gros coup de cœur pour les Verts allemands.
Qui arrivent à être pragmatiques.
Et surtout, qui se distinguent des Verts français, qui eux, pour le coup, on peut dire, sans guillemets, qu'on a peut-être les Verts les plus bêtes du monde, qui sont parfois dogmatiques, sectaires. Et on l'a encore vu ce week-end. Ouais. Par exemple, les Verts français ont fait foirer à eux tout seuls une liste d'union de la gauche pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont intransigeants, ils veulent négocier sur rien. Et je pense qu'il faut aussi regarder finalement le bilan. Là, on approche un an de bilan des maires écolos dans certaines grandes villes. Et franchement, ça fait peur. On voit qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fait sans concertation, qui ne sont pas du tout consensuelles et qui relèvent d'une idéologie qui peut être, pas moi par exemple, féministe extrémiste. À Paris, on a une Misandre quand même qui est conseillère de Paris. Enfin, c'est intersectionnel, communautariste, indigéniste, en tout cas. On s'éloigne de plus en plus.
Le bilan, oui, de la gestion communale.
De la gestion communale, mais aussi de l'écologie.
Pardon ?
Il y a une gestion ?
Oui, il y a une gestion. Bon.
Mais on s'éloigne surtout de l'écologie. Donc voilà, gros coup de gueule contre les Verts français, surtout qu'on est dans un contexte où on a besoin d'une écologie qui soit consensuelle, qui finalement, qui embrigade tout le monde. Et là, j'ai l'impression que les écolos français, ils braquent tout le monde contre l'écologie, justement, parce qu'ils ne font pas d'écologie.
Une réaction, peut-être, Romain Colas ?
Je peux partager ce coup en même temps de cœur et de gueule, parce que force est de constater, et l'exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes est assez éclairant, qu'on a aujourd'hui, alors même que dans un certain nombre d'exécutifs locaux, des communes, des départements et des régions, nous gouvernons ensemble, les socialistes, les verts, les communistes, les radicaux, etc. On a tout auréolé des scores atteints par les verts aux dernières élections, une direction de ce parti qui est dans une crispation identitaire qui est à mon avis totalement irresponsable. D'abord parce qu'on sait que mathématiquement, si on veut à un moment que des majorités qui relèvent du bloc social écologique émergent, il faut qu'il y ait des alliances et à bien des égards des alliances dès le premier tour. Et puis au-delà de ces considérations électorales, une irresponsabilité par rapport à ce que les Verts eux-mêmes sont censés porter. Ils ne cessent de nous dire à raison qu'il y a une urgence écologique, qu'on a 10 ans devant nous si on veut empêcher que le changement climatique impose des changements d'une gravité telle qu'ils seront irréversibles et qu'ils mettront en cause la capacité même de l'humanité à survivre à elle-même. Et dans le même temps, ça donne localement et nationalement à de la politique aérie qui fait que, bien souvent, pour s'affirmer, ils n'accéderont pas avec nous aux responsabilités parce qu'ils sont dans une logique de tactique partisane qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc oui, je partage. Et puissent les Verts allemands servir d'exemple aux Verts français.
Oui, je pense que ça... Pas sûr que ça fonctionne, mais on peut toujours le souhaiter. On peut le souhaiter. Romain, vous, c'est un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur pour un certain nombre d'initiatives parlementaires qui viennent d'ailleurs de différentes familles politiques. C'était le cas des socialistes la semaine dernière au Sénat. C'est le cas de radicaux, de membres de la majorité La République En Marche et même d'une élue LR avec des propositions de loi sur la fin de vie. Je pense que le pays est mûr, les études d'opinion le montrent mois après mois, pour qu'on envisage enfin de donner une nouvelle liberté aux Françaises et aux Français, celle de choisir, dès lors qu'on est face à une maladie incurable, celle de choisir dignement sa fin de vie. C'est une nouvelle liberté qui ne retirerait rien à personne, qui chacun est libre de ses convictions face à sa conscience et face, j'allais dire, à l'étape ultime de sa vie. Mais on meurt mal en France. On meurt mal en France, bien trop souvent dans d'atroces souffrances. Et je veux rendre un hommage appuyé à Paulette Guinchard-Kunstler, qui avait été une grande ministre des personnes âgées, qui avait fait beaucoup, qui avait passé sa vie d'engagement pour faire en sorte qu'on puisse vieillir dignement. Elle était à l'origine de la création de l'allocation personnalisée d'autonomie. Et puis, elle était confrontée, à son décès qui s'approchait parce qu'elle avait une maladie dégénérative incurable. Et elle a dû aller en Suisse pour choisir sa fin de vie. Et je le regrette amèrement. Et je salue les parlementaires qui s'engagent sur cette voie. J'espère qu'une majorité, il y a quelques voix courageuses qui se dégagent dans la majorité, là. Une majorité pourra se réunir et que nous allons pouvoir donner bientôt cette nouvelle liberté aux Français, qui est sans doute une liberté fondamentale qui engage vraiment ce qui est le plus important chez chacune et chacun d'entre nous.
Mais il faut vraiment légiférer pour ça. C'est une question qu'on m'a posée ce matin en me disant, est-ce qu'il faut vraiment légiférer pour ça ?
On a besoin de créer un cadre juridique pour autoriser, évidemment avec des conditions extrêmement strictes, mais ce qu'on appelle l'assistance médicalisée à mourir, qui n'est pas reconnue dans le droit français, qui est même un crime. Et très franchement, encore une fois, ce serait une liberté nouvelle qui ne retirerait rien à personne. qui marquerait un projet et qui mettrait la France. Aujourd'hui, le Portugal, l'Espagne, on a 4 pays européens qui sont déjà en avance sur nous. L'opinion française est mûre, ça fait très, très, très longtemps. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a on meurt mal, voilà, ouais, en France, ouais, ouais. Parfois dans d'atroces souffrances. Et je regrette vraiment la frilosité qui est liée évidemment au calendrier électoral du président de la République et de l'exécutif sur ce sujet. On sent bien que le spectre politique d'Emmanuel Macron s'est déporté vers la droite au fur et à mesure du quinquennat et qu'il n'a pas envie de taper dans ce qu'il considérait de sa réserve électorale. En attendant, on continue à mourir mal en France.
Merci. Alors, on se retrouve dans un instant. Merci Romain Colas pour ce coup de cœur. Et on se retrouve dans un instant. On va parler évidemment de la suspension du vaccin AstraZeneca. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio pour le débat, pour les débats. Suspension du vaccin AstraZeneca, précaution, principe de précaution, décision politique, catastrophe pour la confiance dans la vaccination. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, où vous avez peut-être envie de réagir. Emmanuel Macron annonce des prochaines mesures à venir. Oui, mais lesquelles et quand? Et puis la prime Macron, une prime qui pourrait être octroyée par les entreprises. On y revient dans un instant. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, et Luca Jakubovic, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Benjamin Cauchy, je ne vous ai pas oublié, vous aviez un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur, on va essayer d'être positif. Ouais. Juste par rapport à l'euthanasie, je ne suis pas convaincu que ce soit le sujet qui soit prioritaire dans la tête des Français. Et j'ai quand même le sentiment que c'est toujours un petit peu un artifice de gauche, si je puis me permettre, à chaque grande échéance électorale d'amener une cause sociétale sur la table. C'est dans leur principe de fonctionnement. Pour le coup, avec la crise, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon moment. Je ferme la parenthèse.
Il y a un calendrier électoral. La vie ne s'arrête pas non plus. La vie législative ne s'arrête pas non plus à cause du Covid.
Et justement, ce sont des propositions qui viennent de tous les bords politiques. Il y a une proposition de loi qui vient de LR, une autre de LREM, une autre des radicaux.
Non, mais j'entends bien ce sujet-là. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de rajouter un point de clivage supplémentaire actuellement dans notre pays. Voilà, c'est juste là, je ferme la parenthèse. Mon coup de cœur, Valérie, c'était pour l'association qui s'appelle Lab Pareto, qui est une association qui regroupe 270 entreprises françaises. Ce sont des PME ou même des grands groupes. Il y a par exemple des groupes public ou privé, vous avez Pôle emploi, vous avez Enedis, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui se sont réunis, en fait, grosso modo, ce sont des acheteurs qui font du réseau. Pour le coup, ils ont été assez pertinents, ils ont sorti une tribune dans le Figaro, où ils lancent un appel à tous les acheteurs publics et privés, à tous ceux qui gèrent la commande publique et privée, de favoriser autant que possible l'achat national. Alors, 99,9% des TPE-PME représentent un emploi sur deux, et donc leur leitmotiv est d'inviter les commandeurs publics et les commandeurs privés à favoriser l'achat national. Alors, quid de la question de la préférence nationale dans la commande publique? Évidemment, le juge européen et le juge français estiment qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction à ce que nos voisins communautaires puissent répondre aux appels d'offres, notamment dans le public. Pour autant, on se rend compte que si les collectivités locales, notamment, rajoutent des critères par rapport à la gestion de la réduction des gaz à effet de serre des entreprises, à certaines spécificités de recyclage, il peut y avoir une possibilité pour favoriser nos entreprises locales. Donc, je voulais faire écho ce matin, Valérie, j'étais un peu long, faire écho à cette belle initiative qui est de dire non, évidemment, il est hors de question de refuser d'acheter chez nos voisins communautaires, mais en période de crise, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas renforcer l'achat local? Voilà.
Ouais. Écoutez, a priori, quand c'est possible, évidemment, qu'il faut le faire. Mon petit coup de gueule, wokisme, cancel culture, c'est une polémique en Belgique autour d'Annie Cordy. Vous savez que comme en France, on veut rebaptiser, renommer les noms, les rues, les places, etc. Et Bruxelles a voulu renommer le tunnel Léopold II pour oublier le passé colonial de Léopold II. Et donc, c'est le nom d'Annie Cordy qui a été choisi. Ah là 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 là. Annie Cordy, qu'est-ce qu'elle a chanté? Elle a chanté Chaud Cacao. Et donc, Chaud Cacao, c'est considéré comme raciste. C'est ce qu'a déclaré Mireille Tseuzy-Robert, la présidente de BAMCO, un centre féministe de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir. Et donc, j'ai beaucoup
aimé... Qui représente quoi? 1% de la population belge?
Certainement, mais la nièce d'Annie Cordy a dit « Je connais la chanson par cœur, mais je cherche qu'il peut y avoir de raciste là-dedans. » Et la LICRA a eu ce tweet assez drôle. « Désolée de déranger les dingues, mais dans Chaud Cacao, le racisme vise-t-il les dragons siffleurs, les crapes tambours ou les loups-garous? C'est pour un ami belge qui voudrait se rendre sur l'île aux merveilles. Merci. » Je crois que tous les jours, il y a ce type de réaction. De...
Valérie, oui. Oui. Valérie, juste pour la petite anecdote rigolote, mais ça me fait penser à la chanson de Yannick Noah qui s'appelle Saga Africa, ambiance de la brousse. Ouais. Si on remet dans ce contexte délétère où on voit de la discrimination à chaque coin de rue en ce moment, on va bientôt nous demander d'interdire la chanson de Yannick Noah, qui pour autant n'incarne pas des valeurs, les valeurs nationalistes ou autres.
On y arrivera.
Mais lui, il a le droit de la chanter, Lucas Jakubowicz.
Je pense qu'on pourra faire un best-of parce qu'effectivement, chaque année, chaque jour, il y a une polémique là-dessus. Ce qui est très rigolo, c'est que les associations antiracistes qui veulent représenter les racisés à leur tête, c'est jamais ce qu'ils appellent des personnes racisées. Racisé. C'est une forme de racisme parce qu'on dit aux gens, ça c'est raciste. Et chaque jour, il y a quelque chose. Hier, il y a eu aussi une association antiraciste américaine qui s'est posé la question de savoir si les Blancs pouvaient poster sur les réseaux sociaux des mèmes d'Oprah Winfrey et si c'est pas finalement de l'appropriation culturelle du racisme. Il y a Pépé le Putois aussi.
On en a parlé la semaine dernière. Moi, je regardais Beyoncé. Beyoncé, elle a les cheveux lisses et je me suis demandé si c'était pas de l'appropriation culturelle.
Non, ne dites pas parce que il y a des... sinon c'est raciste parce qu'il y a des shampoings qui sont seulement pour les Blancs et donc attention à ce que vous dites.
Non, mais voilà, je me suis dit, pourquoi elle se... Enfin bon, je vais me faire taxer de racisme, mais si on pousse le curseur jusqu'au bout, c'est dans les deux sens aussi. Mais là, Annie Cordy, on marche quand même sur la tête. Alors il y en a un auditeur qui me dit « Vous défendez la chanson Chaud Cacao, juste regardez le clip d'Annie Cordy déguisé en mama noire, mais c'est pas raciste. » Est-ce que vous voulez revisiter? Il y avait Joséphine Baker avec ses bananes. Il y a eu, j'ai entendu l'autre jour aussi une chanson de Fernandel sur les homosexuels, mais à ce rythme-là, on va on est
la cage aux folles.
Oui, la cage aux folles.
Et le club Dorothée aussi, qui était assez collector dans son genre.
Ouais. Pourquoi? Il y avait quoi?
Il y avait une chanson sur une machine à laver où effectivement, c'est des gens qui sont déguisés en africains, donc c'est une forme de blackface. Ça pourrait plus passer maintenant, je pense.
Non, mais est-ce qu'on peut revoir, c'est cette éternelle question, ce qu'il y a eu dans le passé avec notre regard d'aujourd'hui.
C'est long, plusieurs instances de gauche dans ce pays, en Europe, dans les... Oui. Je dis de gauche parce que ce sont les seuls qui nous sortent des...
Romain Colas, vous en pensez quoi de tout ça?
Peut-être d'une certaine gauche, mais certainement pas de la mienne et certainement pas de celle que je représente, des socialistes.
Ouais. Bah, en tout cas,
totalement vain et ridicule.
Voilà. On a eu des socialistes qui ont défendu bec et ongle les positions des gens qui étaient les fémènes, les anti-mariage.
Les fémènes, c'est un autre sujet, pardonnez-moi.
Ah, les socialistes défendu.
Oui, non, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas exactement. Romain Colas, avant de passer à l'actualité. C'est le retour. Alors, on va se quitter sur ça. On va pas se quitter, on reste ensemble. On marque une pause, mais peut-être qu'on va réécouter Annie Cordy. Tiens, Chaud Cacao, on l'a retrouvé, notre réalisateur l'a retrouvé. Voilà. Ouais. Allez. Et c'était. Et c'est vrai que cette chanson, cela dit, a été récupérée par Dieudonné. Et que pour le coup, ça lui a donné une dimension un petit peu différente. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Benjamin Cauchy, Romain Colas, Matteo Ghisalberti et Lucas Jakubowicz. Romain Colas, on ne vous a pas eu depuis ce qui s'est passé dans votre ville à Boussy-Saint-Antoine sur ces affrontements entre bandes, comment vous vivez cela aujourd'hui avec ce jeune qui a été tué?
D'abord, merci pour votre message très sympa, Valérie.
Oui, je vous ai envoyé un petit mot parce que j'ai pensé à vous.
C'était très gentil. Écoutez, Il y a eu évidemment d'abord beaucoup de tristesse, beaucoup de colère.
Je rappelle, première... hein, c'est un jeune de 14 ans qui est mort poignardé dans un affrontement entre deux bandes. 7 mineurs ont été mis en examen. Donc c'est bien de vous avoir ce matin et de faire un petit point avec vous.
Voilà, donc c'est des jeunes qui venaient de deux quartiers qui ne sont pas de ma commune, hein, mais qui sont des villes limitrophes. Et moi, je suis le terrain neutre sur lequel, malheureusement, cette rixe s'est organisée et avec la tragédie à son issue. Donc, je disais, au-delà de la tristesse, au-delà de la colère, ma première préoccupation, ça a été d'abord de figer la situation. Ouais. Et ça, on a pu le faire d'ailleurs avec une parfaite collaboration des services de l'État, que je veux remercier. On a bénéficié, malheureusement, ponctuellement, mais de renforts policiers. Ils ne sont plus là, mais ils ont permis de figer la situation.
Ça veut dire quoi, figer la situation? C'est la crainte des représailles,
c'est d'éviter, ça d'éviter la représaille, évidemment. Et là, on s'est aperçu de l'utilité de la présence d'effectifs policiers visibles de façon dissuasive, présents en nombre, et ça a permis de figer la situation. D'accord. Moi, maintenant, ce que je souhaite, et c'est ce qui me mobilise au quotidien, c'est évidemment qu'on tire dans ce drame l'énergie, enfin, de briser un certain nombre de logiques de confrontation qui existent depuis trop longtemps dans notre territoire. Benjamin Cauchy, il le connaît, ce territoire, ouais. Puisqu'il en est issu. Dans ce coin de l'Essonne, comme ailleurs, des logiques de confrontation très anciennes entre des quartiers qui ne reposent sur rien, hein, si ce n'est sur cette culture de confrontation qui s'est transmise de génération en génération. Moi, ça fait des années que je plaide pour qu'on essaye de la briser, notamment en travaillant avec les plus jeunes. C'est un truc tout bête, mais on a les gamins dans nos centres de loisirs quand ils ont 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et moi, je propose depuis longtemps que nous les brassions, qui passent des vacances ensemble, parce que ce sont souvent les gamins qu'on a dans les centres de loisirs, qu'on retrouve dans la rue quand ils sont pré-ados ou ados, avec l'espoir que s'ils fraternisent à 8 ou 9 ans, ils ne se tapent pas dessus à 12. J'étais seul à plaider pour cela ces dernières années. Là, il y a eu du renouvellement à la faveur des dernières municipales. Il y a maintenant des élus, notamment Épinay-sous-Sénart, qui ont envie de faire, qui est une des deux villes concernées par ces rixes. Et donc, on va avancer sur ce sujet-là. On aurait d'ailleurs dû le faire dès les dernières vacances, mais la crise du Covid nous interdit de mélanger les gamins. Donc, on espère qu'on pourra le faire pour cet été. Ça, c'est un travail de longue haleine. Et puis, il y a un sujet qui dépasse très largement le territoire. On aura sans doute l'occasion d'en parler, sur lequel moi, j'ai plus d'interrogations que de réponses aujourd'hui, mais qui est un fait sociétal. C'est qu'on a des mômes qui vivent dans une ultra-violence permanente, sans aucun recul, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des messageries cryptées. Ouais. Ça a échappé à notre société, le fait que ces gamins, beaucoup de ces gamins, et un peu partout, vivaient dans un monde parallèle une partie de leur temps, qui échappe aux adultes, qui échappe aux institutions, qui sont confrontés dès le plus jeune âge à des images de violence, qui n'ont pas le recul qui leur permet de l'analyser. Il n'y a pas d'adulte pour leur expliquer ce qu'ils voient. Ils la banalisent totalement. Ils ont un regard très désinhibé par rapport à cette violence et donc aucune responsabilité pour ceux qui passent à l'acte, aucun sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils peuvent commettre. Et ça, c'est un énorme sujet qui est d'abord éducatif. Donc moi, j'essaye de tenir les deux bouts de la chaîne. Évidemment, il faut un travail policier et de justice lorsque les rixes surviennent. Il faut ce travail policier pour les prévenir en lien avec les municipalités, mais on a vraiment un sujet éducatif qui est majeur. Je termine juste par cette donnée qui je crois est importante, ce témoignage. Je discutais très peu de jours après le drame avec des adultes maintenant, parce qu'ils ont 20 ans, de ma commune. Mais je fête aujourd'hui mes 13 ans de mandat de maire, donc c'est des mômes que j'ai vus grandir. J'ai connu ces gamins. Je sais que 2-3 d'entre eux ont participé à un moment à ces affrontements, mais à l'époque c'était au point entre ces bandes. Et l'un d'entre eux me disait: vous savez, monsieur le maire, on a un problème aujourd'hui, c'est que les petits, ils sont fous. Il y a 6 ans d'écart entre eux, mais ils considèrent qu'il y a il y a un rapport à la violence, notamment du fait de cette vie parallèle que mènent les gamins sur les réseaux, sur les applis de messagerie. Il y a un rapport à la violence qui n'a rien à voir avec ce qu'était le leur à l'époque. Donc ça n'excuse rien, mais c'est un sujet de fond, parce que quand vous voyez que cette violence, elle est capable d'exister là où il y a des cultures de confrontation, mais aussi la veille à Saint-Chéron où une gamine est morte, et Saint-Chéron, croyez-le bien, c'est la campagne, c'est pas les cités, c'est pas, voilà. On a un sujet d'une partie de la jeunesse qui a glissé. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, j'ai beaucoup plus d'interrogations que de réponses, mais il va falloir qu'on, qu'on s'y attelle collectivement. Quoi.
Alors, vous voulez peut-être commenter. Je vais faire une petite parenthèse. Hier, j'ai vu sur une chaîne un reportage sur les violences de bande. Et dans les années 50, il y avait une psychologue, une psychiatre qui disait les illustrés, ce qu'on appelait les illustrés, c'est-à-dire les bandes dessinées, c'est ce qui engendre de la violence entre bandes. Et on voyait des dessins de bandes dessinées en noir et blanc avec ta-ta-ta, boum, boum, boum. Et elle disait c'est ça qui influe sur les jeunes. Et à chaque époque, on a une responsabilité qui est pointée sur les dessins animés, sur les dessins animés japonais, sur les jeux vidéo. Mathéo.
Moi, je me pose seulement une question. Si cette situation n'est pas aussi le fruit d'une manque de sanctions claires et d'encadrement clair et des responsabilisations aussi des parents, parce que quand on devient parent, c'est pas, comment dire, par hasard en général. Parfois, oui. Mais je veux dire, quand on a un projet familial, c'est pas un hasard. Et à un moment, ça serait aussi normal, mettons aussi si on devient par hasard, qu'on s'occupe de nos enfants. Alors on découvre qu'il y a des parents qui ne savent même pas où sont allés leurs enfants. Pas le cas de la ville de Romain Colas, mais malheureusement, ce fait divers cet homicide à Argenteuil. J'étais étonné de voir que les gamins qui ont tué cette fille délibérément sont allés dîner à Paris sans problème. Et la mère, après, les voit arriver, repartir. C'est la mère du garçon qui apparemment a tué cette fille. Il va arriver, partir. Je pense qu'il y a effectivement une... Je me demande s'il n'y a pas eu un manque de sanctions claires qui auraient pu encadrer un petit peu plus ces jeunes et leurs familles.
Oui. Lucas Jakubowicz.
Moi, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. J'ai l'impression que c'est un mal qui existe depuis plusieurs années, qui prend de plus en plus d'ampleur. On en entendra de plus en plus parler. Effectivement, il y a la question de la sanction qui se pose, mais je serais curieux de voir ce qui va se passer dans la ville de Boussy-Saint-Antoine avec l'idée finalement des colonies pour casser la violence dès l'enfance. Donc je pense qu'il faut regarder ça de près et ça semble une bonne piste.
Oui, Benjamin Cauchy.
Oui, effectivement, je connais bien cette partie de l'Essonne. Je connais surtout la circonscription qui est à côté, avec notamment des communes comme Vigne-sur-Seine, où effectivement la jeunesse est en proie à la violence. Je partage le point de vue de Monsieur Colas. Il y a effectivement un énorme impact de la part des réseaux sociaux. Je suis également papa d'un enfant de 14 ans. Je peux vous assurer que l'impact des réseaux sociaux, parfois sur leur comportement, est parfois irrationnel. Donc, dans un cadre où les actions de prévention qui sont menées par les collectivités locales ou les associations semblent insuffisantes parce que, en parallèle de ça, il y a une impunité judiciaire extrêmement forte. Oui. Le rapport à l'autorité, au respect des règles, d'une part, et puis cet accès à cette violence facile. Je vous entendais parler des dessins animés. Le Club Dorothée avec Ken le survivant, c'était un peu violent. On va se rappeler des choses. En attendant, ça passait sur une chaîne publique. Et je pense que le CSA veillait tout de même. Et d'ailleurs, le CSA avait verrouillé certains dessins animés. Le problème des réseaux sociaux, lorsque vous avez des jeunes qui se filment sur TikTok, sur Snapchat ou encore d'autres applications, et ils sont en train de faire une sorte de course à l'échalote, à celui qui sera le plus violent, celui qui sera le plus trash, à celui qui sera le plus cash, les font effectivement vivre dans un monde parallèle. Donc, dans des circonscriptions qui sont extrêmement fragiles sur un plan social, sur un plan économique, avec une densité démographique et puis une pauvreté aussi, il faut dire les choses, c'est une partie de l'Essonne qui est plus pauvre que d'autres, l'impunité, parce que la justice n'est pas suffisamment présente. Par exemple, je vous donne un exemple à Vigneux-sur-Seine, commune de 35 000 habitants, il n'y a même pas un commissariat. Donc, si vous voulez, les trafics en tout genre se déroulent, et la jeunesse, elle a quoi comme exemple? Elle a des grands frères qui dealent, je caricature un peu, ou alors des réseaux sociaux qui les poussent à l'extrême. Donc, effectivement, il y a une nécessité de prendre en considération les réseaux sociaux, et je crois par ailleurs que la Chine, d'ailleurs, la Chine a demandé à ce que les enfants ne puissent plus, les collégiens ne puissent plus utiliser les téléphones durant les jours de cours. Donc, il y a une prise en compte de certains États, et non des moindres, sur l'impact néfaste que peuvent avoir les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un sujet plus important que l'euthanasie.
Voilà. Il y a quelque chose qui est assez peu évoqué. Il y a peu de gens qui le disent. Il y a toujours Maurice Berger, ce pédopsychiatre. Il y a également Malika Sorel, que je recevais hier, qui évoquait dans ce livre, dans un de ses livres, qu'il y a une défaillance au niveau des parents sur le jeu. C'est-à-dire que le jeu GEU, c'est-à-dire que les parents ne jouent pas avec ses enfants. Parce que vous évoquez la violence, c'est une chose. Tuer quelqu'un, c'en est une autre. C'est-à-dire être capable d'aller au bout d'un acte de violence en se disant que vous allez tuer, c'est qu'il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas dans la tête de ces enfants et que le jeu n'a pas été... ils n'ont pas joué. Ça peut paraître dérisoire comme réflexion, mais ils ne savent pas faire semblant. C'est ce qu'explique Maurice Berger. C'est que ce sont des familles qui n'ont pas cette culture, forcément, des parents qui n'ont pas le temps, pour X raisons, c'est, j'en jette pas la pierre, mais ils n'ont pas le faire semblant. Et je répète toujours cette phrase de Maurice Berger qui avec un gamin de 14 ans qui est en centre fermé et à qui il disait « Mais pourquoi tu ne l'as pas tué ?» alors qu'il venait de massacrer un jeune garçon de son âge, il lui a dit « Parce qu'on m'a retenu par la capuche. » C'est-à-dire que c'est cette notion de la mort n'existe pas, le faire semblant n'existe pas, et la mort, je ne sais pas si ça vous évoque...
Moi je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, deux choses. Donc vous avez parlé du jeu et de classe populaire, et il y a quelques mois, il y a un livre qui est sorti de chercheurs au CNRS, Monique Dagneau, et d'un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Casselli, où ils se sont intéressés en fait sur les recettes de succès des surdiplômés, et justement ils disent que dès l'enfance en fait les parents jouent avec leurs enfants pour les faire mûrir. Absolument. Et l'autre point, c'est que vous parlez des parents, notamment dans les milieux populaires qui sont, où il y a pas mal de rixes. Il y a pas mal d'études, notamment des États-Unis, d'Angleterre et puis aussi de France, qui montrent que dans ces familles-là, en fait, il y a une surreprésentation de familles monoparentales.
Absolument.
Et donc, en fait, les enfants ne voient même pas leur père. Il n'y a pas de père, il n'y a pas d'autorité masculine. On pourrait en avoir à l'école, mais le corps enseignant, il est de plus en plus féminisé. Donc, finalement, il n'y a pas de modèle d'hommes qui peuvent vraiment guider des jeunes hommes et des vrais hommes.
Il y a aussi une diabolisation du père, du mal, parce qu'apparemment, c'est mal. Donc, voilà. Ouais. Le père, souvent, est l'altérité. Quand un enfant commence à se développer, il comprend qu'il y a des limites parce qu'il y a son père. Dans la meilleure demande possible, naturellement, je parle du point de vue psychologique. Mais si on enlève cette figure, parfois on fait des dégâts.
Allez, on marque une pause et on revient. On va parler de la suspension du vaccin AstraZeneca. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on va parler de l'AstraZeneca, la suspension de la vaccination. C'est hier que le président de la République l'a annoncé. Écoutez, je vous propose de le réécouter.
La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne.
Voilà. Oui, Mathéo,
je souriais parce que, en fait, je constate que dans ces 12 derniers mois, on a vu le gouvernement qui n'était pas vraiment capable de prendre des décisions avec de la colonne vertébrale proprement dite. Bien sûr, c'était compliqué, c'est compliqué de gérer cette crise, mais on a assisté à un tout médical, donc c'est les médecins qui décident. On a assisté à un tout bureaucratie, disons, c'est les fonctionnaires qui décident en janvier.
Politique.
Et maintenant, on est encore on revient au médical parce qu'on se rend compte que effectivement, peut-être, on devait prendre des décisions courageuses, mais qui auraient coûté du temps, de l'argent, de l'investissement aussi en termes de sécurité, parce que c'était difficile de faire rester les gens en confinement, mais peut-être c'était plus facile de le faire avant que maintenant. Et là, en plus, on a évité de mettre en discussion la doxa européenne parce que notre Seigneur l'Europe nous protège de tout, etc. Malheureusement, pas de bol, ils se sont trompés. Et donc, on a dû attendre l'Allemagne, la décision allemande, pour que le président français décide de fermer aussi les...
Comme si on ne pouvait pas prendre une décision...
Non, si Berlin la prend, alors nous, on le fait. Sinon, bon, on continue.
Ouais. Moi, je trouve que c'est une catastrophe du point de vue de la confiance pour le vaccin. On rappelle qu'il n'y a aucun lien pour l'instant qui a été établi, aucun lien direct. Il y a eu des thromboses, il y en a eu assez peu finalement sur l'ensemble sur le nombre de gens vaccinés, Luc Averan, sur la décision politique quand même. C'est pas une décision, contrairement à ce que dit Alain Fischer, c'est pas une décision sanitaire qui a été prise.
Moi, sur la question d'AstraZeneca, alors déjà, moi, ça fait un an que j'entends énormément de responsables politiques et aussi de journalistes parler de sujets scientifiques, alors que finalement, on n'a aucune légitimité, on n'y connaît
c'est
rien.
Je
pense qu'il faut vraiment faire confiance aux autorités scientifiques.
Oui, sauf qu'ils ne sont pas d'accord entre eux.
Voilà, c'est le problème qu'on a avec l'AstraZeneca. Et en fait, c'est un problème finalement philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vaccine en masse en sachant qu'il y aura peut-être des effets secondaires ? Ou bien est-ce qu'on fait primer le principe de précaution et on suspend tout ? Et en fait, il y a deux écoles différentes au niveau de l'Union européenne, ou même des pays européens. Par exemple, l'Islande a refusé d'injecter des doses d'AstraZeneca, alors qu'ils n'ont eu aucun effet secondaire. Mmh. La France, nous, pendant longtemps...
Alors, ils sont moins nombreux aussi. Hein.
Ils sont moins nombreux, mais par exemple, la Norvège, ils ont eu, je crois, 3 cas de thrombose. On n'était pas sûr que c'était lié à AstraZeneca. Ils disent, on suspend. Nous, la France, en fait, là, tout le monde dit, il y a un revirement... donc qui s'est fait hier, mais il faut savoir que c'était le 4 mars, il y a eu un rapport qui a été envoyé à l'autorité, à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, je crois que c'est ça le nom, ANSM, qui disait, en fait, nous, on a injecté 450 000 doses d'AstraZeneca, et on a 3000 patients qui ont, c'est pas des thromboses, mais des migraines,
effets secondaires.
Des courbatures, et là, justement, nous, on a dit, jusqu'à hier, c'est pas grave, on continue. Et le cas le plus, caricatural ou le plus symptomatique, c'est justement c'est la Grande-Bretagne. Ils ont inoculé 11 millions de doses. Ils disent, nous, c'est pas grave, on continue. Pour moi, c'est avant tout un sujet philosophique et utilitariste que médical, cette histoire d'AstraZeneca.
Oui, mais c'est aussi, je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui sont engagés dans la politique, c'est aussi une façon de se protéger et d'ouvrir le parapluie en ne voulant pas prendre de risques. Enfin, on peut le voir des deux côtés.
Oui, mais en même temps, si on se dit on arrête la vaccination et donc on a peut-être des morts de Covid-19 qu'on aurait pu vacciner.
Oui, sauf que les médecins... Oui, c'est ça. Mais les médecins disent qu'il y a plus de bénéfices que de risques.
Alors, en tout cas, moi, je pense qu'il faut croire les médecins.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous quand ils sont d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Romain Colas ?
Je partage l'analyse qui est la vôtre, Valérie. C'est qu'on est dans une décision qui est essentiellement politique. Puisque d'ailleurs on le voit, politique et jupitérienne, puisque Jean Castex, quelques heures avant qu'Emmanuel Macron ne décide lui-même tout seul de la suspension de cette campagne de vaccination, Jean Castex nous disait que la France faisait toute confiance dans le vaccin AstraZeneca. Je pense que c'est la décision de l'Allemagne qui a précipité la décision française. Emmanuel Macron nous dit qu'il s'inscrit dans un cadre européen, pas du tout, puisqu'en fait, on a des décisions des États individuels, alors même que l'Agence européenne du médicament continue de recommander la vaccination avec l'AstraZeneca, même si elle va rendre un nouvel avis sur la base de données qui lui a été transmise jeudi, je crois. On est dans une décision politique dont je crains, parce qu'on est sur de l'atermoiement. C'est le cas aussi des décisions qu'on attend sur l'Île-de-France ou pas dans les jours qui viennent. On est dans du stop and go permanent dont je ne crois pas qu'il soit de nature, sauf à ce qu'encore une fois, scientifiquement, on atteste de la validité de cette décision, qu'elle soit de nature à rassurer les Français, à leur donner confiance dans un moment opportun, ils en ont grand besoin. Il y a, au-delà du succès de la stratégie vaccinale, il faut que les pouvoirs publics prennent en compte ce qu'est le moral des Français, quoi. Il est dans les chaussettes. Et ce stop and go, ces injonctions paradoxales, ajoutent de l'anxiété à un pays qui n'en a vraiment pas besoin.
Ouais, vous l'avez rappelé, un Premier ministre qui nous dit dimanche soir, il n'y a pas de problème, et le lendemain, on décide de suspendre la vaccination. Xavier, notre auditeur fidèle, a réussi à se faire vacciner par le Pfizer. Il a eu une petite allergie, mais comme tous les vaccins qui peuvent avoir des effets secondaires. Et c'est vrai que cette communication est quand même très compliquée. Alors, pardon, on n'a pas entendu Benjamin Cauchy.
Oui, alors effectivement, je ne suis ni médecin ni scientifique, donc je ne me prononcerai pas sur la dangerosité ou le bienfait de ce vaccin, ce n'est pas dans mes compétences. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt en termes de communication politique. La première chose, effectivement, les gens sur cette antenne l'ont bien dit, la France a suivi l'Allemagne. Est-ce que la France est incapable de prendre une décision seule? Est-ce qu'effectivement Emmanuel Macron a souhaité se raccrocher finalement à un bouclier européen? Pour autant, force est de constater que la compétence santé ne relève pas de l'Union européenne. La compétence santé est une mission régalienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la contradiction, vous l'avez souligné, entre Castex qui twitch et Emmanuel Macron qui switch dès le lendemain la décision. D'utiliser AstraZeneca. Et puis enfin, le troisième point, c'est comment le gouvernement va-t-il pouvoir transmettre des informations qui vont être prises pour argent comptant? Est-ce que les Français vont continuer avec le recul nécessaire? Je ne parle pas des complotistes, hein, je parle vraiment des Français moyens qui écoutent, qui s'informent de façon diverse et qui cherchent à se forger un point de vue. Comment peut-on continuer à faire confiance dans un gouvernement qui, d'une part, ne met sa stratégie de sortie de crise uniquement par le vaccin et omet l'augmentation du nombre de lits dans les réanimations, omet en tout cas pas sous silence toutes les thérapeutiques préventives qu'il pourrait y avoir. Et donc finalement, on se retrouve dans cette dualité, vaccin ou confinement. Ça, c'est extrêmement important parce que les Français, maintenant, ne vont plus être capables, en tout cas, il y a une perte de crédibilité de la parole gouvernementale qui est extrêmement dangereuse. Et j'entendais ce matin un professeur Piaillou, je crois, sur une chaîne d'info, qui disait, avec ce vaccin, s'il y a suspension, il y a suspicion. Et après, toute la politique vaccinale va se casser la figure. Donc, vous avez un gouvernement qui se focalise pour la sortie de crise uniquement sur le vaccin, en omettant d'accroître le nombre de lits, en omettant de parler ou d'investir sur la recherche médicamenteuse, et ça tombe à la flotte. Donc, c'est extrêmement problématique pour le gouvernement. Je suis très inquiet.
Oui.
N'oublions pas que d'ailleurs, l'Allemagne, avait acheté des doses de vaccins autonomement, alors que justement elle était censée adhérer au programme européen. Et d'ailleurs, elle a acheté des doses, selon ce que j'ai pu lire dans la presse italienne, donc prenez-le pour ce qui vaut, mais des doses de Pfizer. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas anticiper qu'il y aurait eu des problèmes avec une marque de vaccin ou l'autre. Mais quand même, il faut dire que, alors que Emmanuel Macron a voulu toujours consacrer ses choix aux décisions de l'Union européenne, en fait, il s'est trouvé tout seul parce que chaque pays a pu justement faire de la souveraineté sanitaire. Et peut-être il a pris aussi des décisions qui concernaient la France, qui avaient un réflexe sur la France, comme celle, par exemple, de la fermeture des frontières ou en tout cas contrôle augmenté des frontières de la Moselle, qui a été décidée par Berlin et qui a eu des effets sur un territoire français.
Oui, alors, vaccin Covid, on m'envoie ce tableau. En France, pour le vaccin Pfizer, 31 thromboses veineuses profondes. C'est une incidence de 0,068. Pour le Moderna, il y a eu deux thromboembolies sur 242 000 vaccinés. Ça fait une proportion de 0,0083%. Et AstraZeneca, une thrombose multiple, ça fait 0,0022. Donc finalement, il y a eu plus de thromboses avec le Pfizer qu'il n'y en a eu avec l'AstraZeneca ou même le Moderna. Donc,
je pense que tout le monde a fait l'expérience d'être vacciné, d'avoir quelques jours de difficile après. Donc moi personnellement, je ne suis pas contre vaccin, je ne suis pas non plus contre AstraZeneca, mais je trouve que ça a créé de la confusion effectivement cet atermoiement. Et donc si demain matin on me propose en tout cas de me faire vacciner avec AstraZeneca, je le ferai. Mais en même temps, clarifier un petit peu la position, parce que sinon après les anti-vaccins effectivement, qu'ils ont tout le droit de s'exprimer. Mais forcément, ils ont.
On n'en attendait pas autant. Allez, on marque une pause et on continue ce débat tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi et nous revenons sur cette décision de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Décision politique, décision sanitaire. Là encore, et c'est ce qu'on évoquait, la confiance dans la vaccination risque d'être sérieusement ébranlée. Vous vouliez rajouter quelque chose, Lucas?
Oui, je voulais dire que ce vaccin AstraZeneca, en fait, était une sorte d'arme psychologique parce que c'est le premier vaccin qui peut être inoculé chez les pharmaciens.
Ouais.
Là, on est dans un contexte où les gens ont vraiment, même les personnes âgées, du mal à prendre rendez-vous. Là, on va leur dire, ben voilà, vous pouvez enfin vous faire vacciner facilement. Et on leur dit, ben non, en fait, potentiellement, c'est pas possible. Et il y a un autre souci, en fait, avec le vaccin dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'en fait, il y a des immenses retards de livraison.
Ouais,
c'est l'Union européenne qui commande les vaccins. Je crois qu'elle a commandé 120 millions de doses d'AstraZeneca sur le trimestre. Et apparemment, ce qui a été dit la semaine dernière, c'est qu'on aurait, dans le meilleur des cas, entre 20 et 30 millions de doses. Donc même si dans les jours qui suivent, les autorités médicales de l'Union européenne nous disent « c'est bon, on peut vacciner, il n'y a pas de risque », en fait, c'est bien probable qu'on n'ait même pas les vaccins.
Ouais. L'Allemagne a commandé des doses de Pfizer pour 2022. Ce serait intéressant de savoir si la France a mis au point aussi un nombre de commandes. Ça risque d'avoir un impact très fort, effectivement, sur la vaccination et sur des gens qui vont perdre confiance et qui vont se dire, comme vous, je ne sais plus qui disait, si c'est qu'il y a un doute. Je ne sais pas qui veut intervenir. Romain?
Bah, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Ouais.
C'est selon la formule consacrée.
Ouais, mais pas forcément non plus.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ce que vont se dire une partie de nos concitoyens, oui, dont certains, malheureusement, moi je le constate dans les échanges que je peux avoir avec des habitants de ma commune, étaient déjà très très méfiants vis-à-vis du vaccin.
Ça n'avait pas changé. Il n'y avait pas eu d'amélioration. Il y avait eu une amélioration notable.
À partir du moment où un grand nombre de Français avaient envie de se faire vacciner, ça a emporté la conviction de certains. Mais moi, j'ai échangé il y a plusieurs semaines et encore récemment avec un certain nombre de personnes qui considèrent qu'eux, ils ne se feront pas vacciner. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai croisé en arrivant à la mairie une de ces dames qui m'a dit « Vous voyez, monsieur le maire, hein, j'avais bien raison de ne pas vouloir me faire vacciner. Ils ont suspendu l'AstraZeneca. » Donc effectivement, ça ne va pas aider. Ce que j'espère vraiment, c'est que le plus rapidement possible, et vous avez donné des chiffres, hein. Les autorités sanitaires et françaises et européennes vont pouvoir lever le doute. Moi, j'entends, hein, et je crois que c'est le discours ultra majoritaire chez les sachants, les médecins aujourd'hui, et moi, je me fie à eux, qui nous disent que le rapport coût-bénéfice est très largement en faveur de la vaccination, y compris avec l'AstraZeneca. Et j'ai été sensible au discours d'un infectiologue que j'ai entendu qui disait « on a quoi qu'il arrive ». Même s'il peut y avoir des effets secondaires, on a quoi qu'il arrive plus de chances, surtout à partir d'un certain âge, d'attraper un Covid qui peut développer des formes graves plutôt que d'avoir des effets secondaires sur un vaccin. Et c'est ça la médecine, malheureusement, mais il n'y a pas de certitude et de vérité absolue en matière de médecine, c'est qu'il y a toujours une quantité, et il faut qu'elle soit le plus négligeable possible, mais effectivement des effets secondaires potentiellement graves. Et donc la médecine, c'est une histoire de rapport coût-bénéfice. Et aujourd'hui, le bénéfice, je crois, plaide largement en faveur de la vaccination.
Beaucoup des gens d'ailleurs qui sont contre la vaccination fument. Hein. Donc on dit, on ne sait pas ce
qu'il y a.
Non, mais on nous dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Quand vous fumez, c'est infiniment plus dangereux, paraît-il. Cet arrêt, me dit Gilles, correspond surtout au démarrage de la campagne publicitaire pour la vaccination. Quel gâchis d'argent public. Je reviens te chercher, vous savez, la campagne où on voit des petits-enfants et une grand-mère qui se fait vacciner. C'est vrai que c'est pas cohérent, vous l'avez souligné, Lucas Jakubowicz, également. C'était le démarrage aussi de la campagne de vaccination dans les officines de pharmacie. Certains y voient d'ailleurs une concomitance assez étonnante, c'est-à-dire à savoir, et certains de nos auditeurs nous le disent, il n'y a pas assez de vaccins. Donc, comme par hasard, on suspend la vaccination, ce qui va permettre qu'il y ait peut-être moins de candidats à se faire vacciner.
Je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'il y a des pays, par exemple, comme l'Islande, dont on parlait tout à l'heure, qui ont d'énormes stocks d'AstraZeneca et qui ont quand même arrêté la vaccination. Donc, je ne pense pas que ce soit une manœuvre politique, c'est juste deux philosophies différentes chez les responsables politiques.
Aussi un mauvais timing, peut-être. Moi non plus, je ne pense pas qu'il y a une vraie manœuvre politique derrière, mais Pas de bol, honnêtement.
Mais est-ce qu'il y a une envie aussi d'ouvrir le parapluie et de se dire, bon, au moins... Parce que quelqu'un disait ce matin, je ne sais plus qui, s'il n'avait pas suspendu, on le lui aurait reproché. On serait en train de dire, oui, mais les autres ont décidé d'interrompre, pourquoi pas la France, on est irresponsable,
etc. C'est très difficile, mais parce que la France s'est laissée un petit peu guidée par d'autres instances, soit européennes, soit allemandes, et ne prenait pas des décisions. Donc, encore une fois, peut-être elle aurait dû effectivement prendre une décision française et peut-être regarder un petit peu la possibilité d'acheter d'autres vaccins ou de produire d'autres vaccins.
C'est le cas, il y a
vaccins.
Le Johnson qui arrive.
Mais pourquoi la fameuse Italie a commencé va commencer à produire le Sputnik V parce que ils sont plus intelligents que les Français? Non, je ne pense pas.
Voilà. Ouais. Absolument. Alexandre, ça n'a strictement rien à voir. Un auditeur qui nous dit « Je connais quelqu'un qui travaille auprès de personnes âgées. 3 décès après cette foutue thérapie génique. Je rappelle que l'AstraZeneca n'est pas un vaccin ARN. C'est un vaccin classique. Tout ce qu'il y a de plus classique qui ne fonctionne pas de la même manière que celui-là. » Et moi, je peux vous répondre que je connais une dizaine de personnes qui ont été vaccinées par l'AstraZeneca qui n'ont eu aucun effet secondaire. Benjamin Cauchy, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, le grand sujet par rapport à AstraZeneca, c'est de savoir à partir de quand il va pouvoir être réutilisé. Ça, c'est
on attend,
sujet.
On attend l'avis demain d'un conseil sanitaire européen.
Demain, deux jours, à ce qu'a expliqué de ce qu'a expliqué Olivier Véran, d'ici deux jours, on aura des informations. Il doit vérifier si les morts sont véritablement liés à un problème lié au vaccin. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est effectivement cette communication publique qui a été mise à grands pas, à renfort de publicité, où on voit une mamie qui embrasse ses enfants.
Ouais, c'est ça.
Et de façon insidieuse, on rajoute derrière, en l'état actuel de la vaccination, continuer à respecter les gestes barrières. Je trouve que déjà, il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle qui est mise à mal par cette suspension du vaccin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très inquiet, non pas des complotistes, mais des gens, des simples citoyens qui réfléchissent avec bon sens et qui disent finalement, qu'est-ce qu'on va faire, quoi.
C'est un peu la même chose pour le confinement en Île-de-France ou pas confinement.
Exactement, ou pour des entreprises qui, le lundi matin, ne sachant pas si vendredi il y aura un confinement ou si la vaccination va être ralentie, est-ce que l'entreprise, le lundi matin, en comité d'entreprise, va se décider d'embaucher 3 commerciaux pour le trimestre 2. Donc voilà, tout est pareil, si vous voulez. Cette stratégie du pilotage à vue du gouvernement qui peut s'entendre en disant, on est obligé de s'adapter au fur et à mesure, vaccin, suspend pas, on remet pas en place, les pharmaciens, les médecins, ils essayent d'adapter une stratégie pour moi, j'appelle ça du pilotage à vue. Le problème, c'est qu'un État, c'est pas une entreprise. Et qu'un État a une responsabilité bien plus importante que celle d'une entreprise. Même si aujourd'hui, les entreprises ont des responsabilités sociétales, environnementales, soit. Mais l'objectif de l'État aussi, c'est de maintenir cette unité nationale, un rapport de confiance et une capacité à se projeter et de reconstruire. Et là, aujourd'hui, malheureusement, tous ces échecs de communication volontaires, involontaires, compétent ou incompétent, qu'importe, l'avenir nous dira, et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra si on les paye à la fin ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement compliqué pour eux aujourd'hui de justifier leur stratégie de pilotage à vue.
Juste, je voudrais dire à nos auditeurs qu'ils écoutent un peu quand on parle, parce qu'il y en a un qui me dit, vous avez des ordres du gouvernement pour ne pas parler du Sputnik. D'abord, on n'a pas d'ordre du gouvernement, moi je ne connais personne.
Ni d'enveloppe, hein.
et on a évoqué tout à l'heure le vaccin Sputnik aussi, en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas plus de vaccins. C'est vous, Mathéo, qui avez dit pourquoi, effectivement, on ne cherche pas à en acheter ailleurs des vaccins, à les produire en France. Et tous les vaccins, évidemment, sont les bienvenus. Non, on n'a pas d'ordre, on n'est pas payé. Sinon, je ne serais pas là si j'étais payé par le gouvernement.
Si vous êtes, je fais un peu pour sourire un petit peu, pour alléger la discussion peut-être, mais si vous êtes un citoyen français qui habite sur la côte niçoise ou dans la zone de Dunkerque, et on vous en ferme parce que on dit que chez vous c'est très dangereux la circulation du virus, alors que dans l'Île-de-France c'est pire, mais on n'enferme pas. Et en plus on vous dit vous aviez votre rendez-vous pour vous faire vacciner AstraZeneca. Ah non, c'est dangereux, etc. Enfin, vous commencez à être un petit peu confus.
C'est vrai que l'annonce, et je voudrais qu'on en dise quelques mots, d'Emmanuel Macron qui a dit on va devoir prendre des mesures, c'est insupportable. S'il sait qu'on va prendre des mesures, qu'il les annonce. Pourquoi attendre 3 jours? On est en Île-de-France à 404 nouveaux nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants, soit plus que le seuil considéré par Jean Castex comme un critère clé pour confiner. Et c'est vrai que Christian Estrosi, ce matin, s'étonnait et disait que la région PACA était l'arbre qui cache la forêt d'Île-de-France. Lucas Jakubowicz, c'est vrai qu'on ne comprend pas la logique là.
Bah en fait, le gouvernement attend parce qu'il a d'autres armes dans les mains en fait, avant d'annoncer un durcissement du reconfinement. On peut par exemple déplacer des patients d'hôpitaux franciliens ou provençaux, par exemple, dans l'ouest de la France. Mmh. On peut ouvrir des lits dans les hôpitaux privés. Il y a d'autres mesures à mettre en place avant de reconfiner. Et puis surtout, ça c'est mon côté parfois un peu poussien, j'aime bien citer des chiffres. Il faut toujours comparer la situation actuelle avec les confinements précédents. En ce moment, on est à peu près, dans les 24 000 cas par semaine de coronavirus. Dans la semaine qui a précédé le deuxième confinement en octobre, on était à 50 000. Donc on a encore une petite marge de manœuvre avant de décider de reconfiner. Donc c'est normal que le gouvernement lance des ballons d'essai, teste l'opinion publique et tergiverse un peu quelque part.
Tous
les gouvernements d'Europe sont dans cette situation.
Non, ça c'est sûr. Ouais. Et je vois même au Canada, je vois qu'il y a exactement les mêmes préoccupations et les mêmes réactions. Les soignants, absolument, c'est la même chose. Mais c'est vrai que de dire on va prendre des mesures, c'est très angoissant, c'est très anxiogène. Romain Colas, sur la communication du politique.
Alors, moi, je partage ce qui vient d'être dit par l'ami Jakubowicz sur le fait que je ne suis pas un soutien du gouvernement, mais je comprends qu'il puisse, à bien des égards, naviguer à vue. En revanche, moi, j'ai des reproches à formuler parce qu'on s'apprête potentiellement à confiner le week-end, on ne sait pas, enfin, tout ça est facteur d'angoisse terrible, l'Île-de-France. Mais il y avait des promesses qui avaient été prises par Olivier Véran, par le président de la République lui-même, notamment sur la montée en puissance des lits de réa. On nous avait annoncé le doublement des lits de réa, ce qui permet quand même d'éviter la saturation de nos services de santé, parce qu'à un moment, ce qu'on appelle les EVASAN, là, ça ne va plus suffire.
Ouais, non.
La promesse a été tout sauf tenue. Ouais. Il n'y a pas eu d'augmentation des moyens dans les réa, absolument pas. On s'apprête peut-être encore à priver les franciliens de liberté. La région Île-de-France, elle a ça de différent avec peut-être la région niçoise, c'est qu'on n'y autorise chaque jour, et c'est vrai pour les habitants de ma grande banlieue, nos concitoyens, parce qu'il faut faire tourner la machine économique, à s'entasser dans les RER et les métros, qui sont sans doute des lieux où on se contamine. Et leur dire, vous avez le droit d'aller bosser, vous avez le droit de voyager dans les conditions qui sont celles qu'on vous impose en Île-de-France, entasser les uns sur les autres, mais pendant les week-ends, au moment où il fait beau, vous allez devoir vous entasser dans vos apparts. Enfin, tout ça est inaudible. Donc moi, j'espère que le gouvernement entendra, il a commencé à le faire, les élus locaux, notamment sur le fait que s'il faut en venir à cette mesure extrême, on n'en arrive pas à l'aberration d'interdire aux gens d'aller s'aérer là où ils peuvent être loin les uns des autres. Je pense notamment aux forêts qu'on nous a fermées de façon aberrante pendant le premier confinement. Il faut que les gens, ils vont péter un plomb. Pardon d'utiliser cette expression familière, mais si on resserre les taux encore un peu plus et qu'on est dans cette aberration qui veut qu'on peut s'entasser la semaine dans le RER, mais qu'on doit rester entassé dans des petits apparts le week-end, ça ne passera pas. Donc, s'il faut passer par un confinement, qu'on le fasse par pitié, un peu intelligemment et dans le respect des personnes.
Eh bien, on va voir ça dans les jours qui viennent. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. À demain.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée. À bientôt.